Intervenez en direct sur RMC dans 100% Bachelot au 32-16.
Chaque année, 70 000 couples se séparent par consentement mutuel. C'est un divorce sur deux.
Le plus souvent, l'audience devant le juge aura duré moins de 10 minutes.
Objectif du gouvernement, désengorger les tribunaux et accélérer la procédure.
Les frais seront donc multipliés par deux, comptez environ 1 200 € par personne.
Est-ce que ce sera plus économique pour la justice? Non.
Roselyne Bachelot.
Bonjour, c'est Roselyne Bachelot. On se retrouve pour 100% Bachelot sur RMC. Bonjour mon Rémi.
Bonjour Roselyne.
Je sens que tu es déjà dans les starting blocks pour le week-end.
Oh oui, mais avant cela, on va faire une bonne émission. On va essayer.
Bien sûr. D'autant que le sujet est chaud palpitant. Les députés viennent de voter une loi sur la justice du 21e siècle. Or, il y a plein de choses, plein de dispositions. Certaines d'ailleurs qui ne sont pas inintéressantes. La loi nous est présentée comme un outil de simplification. C'est parfois justifié. On pense par exemple à l'enregistrement du PACS qui se fera plus au tribunal mais en mairie. Ça, c'est vraiment bien. Mais je suis beaucoup plus réservé et pourquoi ne pas le dire hostile devant la déjudiciarisation de certaines procédures et en particulier, oui, c'est un mot un peu compliqué, et en particulier pour le divorce par consentement mutuel, ce qu'on a appelé le divorce express. Vos opinions, vos solutions, vous êtes pour, vous êtes contre. En tout cas, nous, on vous attend au 32-16.
RMC, Top News, 100% Bachelot.
Et parmi les autres sujets de l'actualité qui te font réagir, Roselyne, il y a évidemment le débat de la primaire à droite et au centre. C'était hier soir. Est-ce que tu as regardé?
Oui, j'ai regardé.
Ah, on était là ravis.
Bah, c'est-à-dire que, franchement, on s'est enquillé quand même une séquence entre l'émission People des gars, là, dimanche soir avec les bougies et la musique, la musique Secret Story, puis ensuite le livre de François Hollande, et là, le débat. Tu avoueras que, hier, dans notre show, j'avais dit, à mon avis, comme le débat est structuré, ça va être chiant, mais hyper chiant.
Et donc ?
Eh ben, je me suis pas trompé.
Voilà, c'est dit. Bob Dylan, prix Nobel de littérature pour son œuvre poétique.
Alors là, je comprends pas. Alors, j'adore Bob Dylan, c'est un chanteur formidable. Mais enfin, le prix Nobel, c'est pas les Grammy Awards ou les victoires de la musique, soyons clairs. Mmh. Ça récompense un écrivain, un gars qui écrit des livres. Et Dieu merci, si on voulait récompenser un Américain, il y a des Américains formidables. Je pense par exemple à Philippe Meyer, le romancier qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Le Fils. Bon, qui décrit cette Amérique rouillée, cette Amérique exclue. Bon, il y avait des tas de gens à récompenser. Bob Dylan, il n'a rien à faire dans le prix Nobel de littérature.
Et puis les regrets de François Hollande, regrets après ses propos rapportés cette semaine dans un livre où il évoque la lâcheté des magistrats. Donc il a écrit aujourd'hui au syndicat de la magistrature pour s'excuser.
Ben non, justement, il ne s'excuse pas.
Enfin, il dit
les mots ont une importance. Bon. Il ne dit pas qu'il s'excuse, il dit qu'il regrette. Ah. C'est pas la même chose, des excuses et des regrets. Des regrets, ça veut dire je regrette, je le pensais, mais je regrette de l'avoir dit, et non pas s'excuser de l'avoir dit. Et puis il dit ensuite, avec ce qui a été ressenti. C'est pas ce qui a été ressenti comme une blessure. C'est une blessure qu'il a faite au magistrat. Donc c'est une bérésina médiatique. Moi, qui ai un certain nombre d'heures de vol, j'ai jamais vu un truc pareil au cours de la 5e République. Et alors vraiment, les rats quittent le navire, les ministres sont aux abris. À mon avis, tout ça va pas bien finir.
D'accord, pas d'accord. Vous nous appelez au 32-16.
RMC 100% Bachelot. Retrouvez Roselyne Bachelot sur Facebook et Twitter.
Justice du 21e siècle, c'est le nom du projet de loi voté cette semaine par les députés. Une réforme de la justice pour tenter de désengorger les tribunaux. Bon là, c'est vrai qu'il y a du boulot.
Là, il y a du boulot. Là,
des mesures de simplification. Exemple, tu l'as donné tout à l'heure, le divorce par consentement mutuel. Plus besoin de passer devant le juge des affaires familiales. Chacun prend un avocat et on entérine devant un notaire. Il y en a d'autres, hein, on va en parler au cours de cette émission. Le PACS aussi, tu l'as dit. Maintenant, on pourra le faire valider en mairie. Changer de prénom, j'ai découvert, parce que je connaissais pas le chiffre, il y a plus de 2000
personnes. Moi, j'adore le prénom Rémi. Ne change pas.
C'est gentil.
Hein.
Et Roselyne, c'est très joli aussi. Voilà, ça c'est fait. Mais il y a plus de 2000 personnes qui, chaque année, demandent à changer de prénom. Et avant, il fallait passer devant la justice. Ben, maintenant, on pourra le faire à la mairie aussi. Bah, c'est plus simple, c'est rapide, c'est mieux, non?
Non, mais tant qu'il y a, et tu soulèves des points précis, tant qu'il s'agit uniquement de démarches personnelles, qu'il n'y a pas de risque de conflit, qu'il n'y a pas de risque qu'une personne se trouve en position d'infériorité par rapport à une autre, ce serait bien, changer de prénom, c'est vraiment la volonté personnelle. Enregistrer le PACS en mairie, plutôt que devant le tribunal, c'est évidemment aussi beaucoup plus confortable et rapide. Ça, d'ailleurs, cette affaire de tribunal n'avait été faite que pour satisfaire les opposants au PACS qui voulaient pas que ça ressemble au mariage. Ouais. Voilà, bah faut dire les choses et faut resituer l'histoire. Mais il y a des choses évidemment dans cette loi qui sont beaucoup plus ennuyeuses, c'est-à-dire qui sont faites uniquement pour non pas protéger le justiciable, mais pour réaliser des économies. Je pense qu'on renonce à la collégialité, tu sais, dans l'instruction. Ça avait été fait pour faire, tu te souviens de l'affaire Doutreau, où un seul juge d'instruction avait finalement tenu la vie des gens entre ses mains. Voilà, et ça, on y renonce. Et puis, il y a cette affaire de divorce par consentement, dans le divorce par consentement mutuel, qui représente 54% des divorces. Le juge est aussi le garant, parce que même si on dit qu'il n'y a pas de conflit, c'est pas vrai. On divorce par consentement mutuel pour éviter des frais, pour éviter des procédures, mais il y en a toujours. Il y a toujours le risque que le fort opprime le faible. Et il fallait sans doute trouver des moyens pour l'abréger, mais certainement pas pour le supprimer, pour supprimer cette procédure.
Et au 32-16, Roselyne, pour en parler, nous avons Amédéo qui nous appelle de Rennes.
Bonjour Amédéo.
Bonjour, Madame Roselyne.
Moi, c'est Roselyne. Bonjour, Roselyne. Ou bonjour, Monsieur Amédéo.
Amédéo,
ça va très bien.
Beaucoup plus simple, oui.
Vous avez un très beau prénom.
Merci beaucoup.
Dites-moi, Amédéo, vous-même, vous avez été dans une procédure de divorce et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette procédure simplifiée?
Alors, je pense que la nouvelle loi concernant celle qui a été proposée par le ministre Garde des Sceaux, donc Monsieur Roy, est une bonne chose en premier lieu, puisque effectivement.
Excusez-moi de vous interrompre, Amédéo. Je voudrais juste préciser que vous êtes président d'une association, c'est ça,
qui s'occupe
des conciliations.
Oui, tout à fait. On a mis en place, donc, on est une association qui s'appelle e-communauté et on a mis en place, donc, la conciliation familiale. On est concepteur de ce projet puisqu'on l'a proposé à Madame Bertinotti en mars 2013. Et on a été reçu par Madame Laurence Rossignol en 2014 pour la rassurer sur la suite. C'est-à-dire qu'il y a des formations et on a bien suivi ce que le ministère nous avait demandé, c'est-à-dire, le profil, tout ce qui concerne la suite du projet là.
On revient à Crémy nous est perturbé.
Alors, attention, je vais demander une séparation à l'amiable.
Oui. Donc vous trouvez qu'il y a des bonnes choses. Redites-moi ce que vous trouvez cette procédure.
Je pense que le fait que les tribunaux soient désengorgés et qu'il y aura un gros avantage au niveau sociétal, c'est que les affaires qui doivent avoir lieu dans les tribunaux, ils auront toute leur place. Les affaires familiales, j'ai des petits doutes que ça soit vraiment la place des tribunaux. Ceci dit, ça va faciliter le dialogue et puis ça permettra effectivement à la justice de s'occuper de choses peut-être plus différentes, quoi. Maintenant, c'est la première des réflexions que j'ai concernant
le côté négatif.
Alors le côté négatif, c'est que donc nous en 2014, on a demandé l'abrogation de l'article 790 et 1088.
Alors, soyez pas trop technique. Hein,
ouais, alors, je veux dire, on a demandé à ce que la présence d'un avocat ne soit plus obligatoire, puisque c'est le cas aujourd'hui. Enfin, ça va être le cas maintenant avec cette nouvelle loi, non plus d'avoir un avocat, mais deux avocats.
Chacun aura son avocat.
Ouais. Alors, on a déjà du mal à comprendre, puisqu'on sait qu'effectivement, il y a à peu près 54% de divorces à l'amiable qui sont présents. Mais la finalité de ces divorces à l'amiable ne sont pas forcément à l'amiable, puisqu'il y a, après la demande de divorce, ce qui suit, c'est souvent des conflits. Et les chiffres sont difficilement, on peut les avoir difficilement. Hein, en tout cas.
Oui, bien sûr, parce que ça se passe dans le secret des foyers.
Dans le secret des foyers. Alors là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Madame
Rosine. Mais il faut me le dire, Amédéo.
Oui,
on est là pour se castagner, pour dire et pour dire ce qu'on a sur le cœur.
Ouais, non, mais je vais vous dire clairement, c'est que actuellement, on se rend compte qu'il y a quand même un système clientélisme autour des affaires familiales, ou en l'occurrence autour des enfants. Et notre préoccupation, c'est bien ça, c'est les enfants. On ne voit pas l'intérêt des enfants avec cette nouvelle loi lorsqu'on oblige, donc dans un consentement mutuel, déjà le mot obligation et consentement, il paraît un peu à l'opposé, quoi. Et on obligerait donc les parents à devoir avoir un avocat. Or, le rôle de l'avocat, c'est bien de défendre le parent. Mais ça va durer combien de temps, ce divorce ? Même s'il sera fait rapidement, il va devenir une non-conciliation, puisque c'est le juge, en finalité, qui devra trancher.
Amédéo, je vous arrête. Vous restez en ligne, on reviendra peut-être vers vous. Mais nous avons en ligne Cécile Untermaier, qui est députée de Saône-et-Loire, socialiste, vice-présidente de la commission des lois et secrétaire de la délégation aux droits des femmes. Bonjour, madame la députée.
Bonjour madame.
Alors, vous défendez cette procédure que j'appelle un petit peu rapidement peut-être divorce express. Expliquez-nous pourquoi vous défendez cette procédure. Vous en êtes d'ailleurs, vous l'avez portée à l'Assemblée nationale.
Oui, nous l'avons portée à la Commission des lois. Hein. C'est une loi importante, cette loi sur la justice du 21e siècle. Eh bien, notre préoccupation, si vous voulez, c'est de mettre le juge au cœur de son métier de juge, c'est-à-dire de permettre au juge de régler un litige. Et nous considérons que lorsque un divorce se fait par consentement mutuel, eh bien, s'il n'y a pas de litige, il n'y a pas nécessairement besoin d'un juge. Voilà l'objectif, avec le souci majeur de remettre le juge en phase d'affaires pour lesquelles il est absolument indispensable et dont le délai d'instruction fait que les gens sont en souffrance pendant des mois et des mois parce qu'ils attendent, bien sûr, la possibilité pour le juge de se préoccuper de leur affaire. Donc, il est absolument essentiel que le juge soit recentré sur l'intervention dans le cadre sur leur cœur de métier et sur il est là pour trancher un litige. Quand il y a consentement mutuel, de soi-même, l'expression implique que le juge n'est pas nécessaire.
Oui, mais vous savez bien, madame la députée, que bien souvent, ce consentement mutuel, c'est qu'une façade et qu'il y a un fort qui opprime le faible et que les moyens de pression sont considérables lors d'une séparation. Il y en a toujours un qui est d'accord et l'autre pas d'accord derrière des procédures par consentement mutuel. Et le juge, il est là aussi pour de dévoiler tout cela.
Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le juge est là aussi pour protéger le faible. Et dans la procédure de divorce, il a ce rôle de veiller à ce qu'aucune des parties ne soit lésée. Mais c'est bien précisément parce que nous avions ce souci-là que nous avons convenu de la mise en place de deux avocats distincts qui permettent à l'un et à l'autre de faire en sorte que aucune des parties ne soit pas défendue en tant que telle. C'est ça l'intérêt des deux avocats.
Mais
c'est
ça va drôlement enchérir la procédure.
Eh ben écoutez, pas nécessairement, parce que je pense que les avocats sont en capacité aussi de réfléchir à cette question. Pas nécessairement, et en tout cas, si on dit que le temps c'est de l'argent, il est certain que ça permettra à des personnes de sortir d'une situation de divorce dans des délais beaucoup plus rapides, si elles le souhaitent.
Madame la députée, je vous arrête, parce que Amédéo, qui justement a été confronté à cette difficulté, va entrer en dialogue avec vous. Alors Amédéo,
je vous écoute avec attention et je suis pas tout à fait d'accord sur la finalité de ce qui se passe aujourd'hui et énormément de doutes sur la finalité qu'il y aura demain. Et je vous en porterai la responsabilité, croyez-moi. Donc aujourd'hui, il se trouve que dans les consentements mutuels, la finalité, elle ne va pas dans l'intérêt de l'enfant, puisque via les procédures, donc on parle bien des procédures, et là vous donnez gratuitement les procédures aux avocats sans contrepartie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de convention, il y aura un tarif fixe. Donc on ne sait pas pourquoi il n'y aurait pas de convention. Nous, on fait des conciliations familiales et on a 100% de réussite, madame la députée, avec le projet qu'on a envoyé. On ne demande que 30 euros une fois par an. pour l'adhésion. On a 100% de réussite. J'ai actuellement deux parents avec moi, là. Enfin, quatre parents avec moi, là.
Mais je vois pas pourquoi il n'y aurait pas, de convention. De toute façon, la convention d'honoraires, elle est obligatoire pour l'avocat maintenant.
Oui, mais c'est de combien, madame?
Il n'y aurait pas de convention. Mais écoutez, la convention, quand on dit convention, c'est des.
Mais oui, mais vous savez,
Laissez parler la, madame la députée Amédéo. Et puis, je vous passerai la parole après. Allez-y, Cécile Untermaier.
Je vous remercie, mais madame, mais je ne vois pas où est le sujet, parce qu'on mélange tout, là. Le problème de la loi, c'est simplement de proposer un consentement, une procédure de divorce qui permette aussi d'alléger le service de la justice et de permettre à des personnes qui, de toute façon, si elles n'ont pas les moyens de payer un avocat, auront le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Encore là, faut-il encore en majorer effectivement la mise en place des crédits. Mais on est dans un dispositif normal et c'est vrai que les deux avocats, c'est la seule garantie qu'aucune des parties ne sorte lésée de ce dispositif, parce qu'elles peuvent considérer que c'est tout à fait favorable, mais en fait, le regard éclairé d'un avocat permettra à cette partie de se rendre compte que en réalité, elle se faisait avoir. C'est ça le souci.
Et
Cécile Untermaier, Amédéo, boum !
La réalité, je la vis tous les jours avec de nombreux parents qui viennent nous voir. La réalité, elle est la
mais
suivante.
Mais vous parlez que des parents, mais il y a quand même aussi des divorces qui se font sans enfants, monsieur.
Mais bien sûr, mais nous, l'intérêt de notre... J'ai oublié de préciser un point important. C'est que l'association, elle vit, donc c'est dans l'intérêt de l'enfant. Et la finalité de l'intérêt de l'enfant, on ne le voit pas, nous. On voit une finalité dans l'intérêt de certains professionnels, mais on ne voit pas la finalité de l'enfant. Lorsqu'il y a un consentement mutuel, ça laisse sous-entendre que les parents, veulent trouver un accord. Ils veulent trouver un accord. Lorsqu'on met deux avocats qui sont là dans l'intérêt de chacun des parents, ils sont là dans l'intérêt de chacun des parents, c'est-à-dire qu'ils ont un moyen technique, vu le système judiciaire, de défendre le parent. Comment voulez-vous qu'ils trouvent un accord? Expliquez-moi.
Alors, Amédéo, on vous remercie, on laisse Cécile Untermaier répondre, et puis on va prendre peut-être un autre intervenant, Rémi. Madame la députée, allez-y, répondez à monsieur, si vous le voulez bien.
Oui.
J'ai l'impression d'être présidente des débats à l'Assemblée.
La
voilà, ça m'appelle des souvenirs. Allez-y, défendez-vous.
On vous regrette un peu. Hein.
Merci.
En tout cas, j'aurais bien aimé vous connaître sur les bandes de l'émission. Non, simplement, c'est vrai que monsieur a raison, que l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant, on ne peut pas l'ignorer. Et on est bien très sensible à cette question. C'est vrai que s'il y a une difficulté majeure, eh bien, ce ne sera pas un consentement mutuel et on retrouvera le chemin du juge. Voilà. Ne pensons pas que c'est une alternative obligatoire et incontournable. Il y aura toujours le chemin du juge si on ne trouve pas les solutions. Et moi, je fais confiance quand même aux avocats qui sont des assistants de justice et qui n'ont pas du tout envie et qui n'ont pas du tout envie d'aller vers une procédure qui pourrait léser les enfants et la partie. Donc, je crois que le consentement mutuel, en ce qu'il permet aux parents de dialoguer, parce qu'un divorce est toujours une souffrance, et une souffrance pour les enfants, le dialogue est une porte d'espérance.
On n'a pas un auteur.
On a un des acteurs de cette nouvelle mesure, de cette nouvelle formule pour le divorce par consentement mutuel. Il s'appelle Arnaud, il est notaire et il est notaire en Gironde.
En Gironde, bonjour Arnaud. Alors vous êtes le professionnel qui va gérer toutes ces affaires-là maintenant.
Eh bien, je suis pas sûr d'en être fondamentalement ravi.
Ça va vous amener des clients, Arnaud.
Je tiens à préciser d'abord que je parle qu'en mon nom et je ne suis pas habilité à parler au nom de la profession pour pas avoir de difficultés. J'ai justement un rendez-vous de divorce parfaitement de consentement mutuel qui m'attend dans ma salle d'attente.
On va faire vite alors.
Un divorce, c'est quelque chose de compliqué. Hein. Jusqu'à maintenant, là, j'entends parler d'enfant. Moi, l'enfant, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, ce sont les biens. D'accord.
C'est votre boulot.
Des biens. Le boulot que nous faisions jusqu'à maintenant dans le divorce par consentement mutuel, c'est faire la partie de la convention de divorce qui concerne le partage des biens. Hein. L'avocat fait la partie de la convention qui concerne la résidence des enfants, la pension alimentaire, etc. Le tout formant la convention globale qui est homologuée par le juge. Effectivement, il y a des délais qui sont extrêmement longs, hein, entre 2 et 6, 8, 10 mois.
La moyenne, c'est 7 mois.
Ouais, mais non, mais attendez, après, quand vous avez la banque à interroger, il y en a un qui garde la maison, qui prend le prêt, mais il faut que la banque désolidarise les engagements du prêt de celui qui s'en va, etc., etc. Mmh. Tout ça, c'est extrêmement compliqué, ça passe au trésor public, ça revient chez nous. Enfin, c'est long, c'est pénible. Bien. Moi, prononcer un divorce, ça me pose pas de difficulté. Deux couples, un couple de cadres supérieurs, locataires, qui n'ont pas de biens, qui n'ont pas d'enfants.
Effectivement, oui, ça, c'est facile.
Devant
un juge, mais c'est pas ce qu'on vous demande.
Signé en bas de la page, merci, au revoir. Très bien. Demain, si je dois vérifier le consentement au divorce des parties, ça me pose une difficulté. Ça pose une difficulté parce que dans un divorce par consentement mutuel, effectivement, Roselyne a tout à fait raison. Il y en a un qui veut toujours un peu plus que l'autre. Hein, et qui me dit qu'il n'y a pas des pressions, des violences, hein, pas violences au sens physique du terme, avec des yeux au beurre noir et des cocards, des violences psychologiques. On va se présenter chez le notaire, et puis si tu signes pas, tu vas voir ce que tu vas voir. Moi, je me sens pas, si vous voulez, forcément, dans tous les cas, de signer ce genre de choses et de faire la loi des parties de manière définitive. J'ai une petite réticence là-dessus. C'est même pas un problème financier. Qu'est-ce qu'on sera payé pour le faire? Je me suis même pas posé la question. C'est de me mêler de choses que je ne maîtrise pas.
Merci, voilà. Arnaud. On a bien compris.
Voilà.
Cécile,
c'est surtout ça qui me gêne. C'est surtout ça qui me gêne.
Le notaire appuie sur un point, c'est qu'il n'a pas reçu de formation dans ses études pour gérer ces questions de rupture matrimoniale.
Non, mais là, on ne lui demande pas de revoir ce qu'a fait l'avocat. Hein, c'est clair que le notaire, en fait, on
c'est un simple enregistrement.
C'est un simple greffier, en quelque sorte.
D'accord,
il est là pour apposer. Non, mais il va être payé pour ça. Et vu le montant qu'on ne veut pas lui allouer, enfin, ils se sont engagés. Le Conseil supérieur du notariat s'est engagé pour exécuter cette signature, cet enregistrement, en fait, de l'acte pour un montant de, je ne me souviens plus exactement, mais qui est de moins de 100 euros, ce qui veut bien dire qu'ils n'ont pas à faire une expertise, et surtout pas, parce qu'il ne faut pas qu'ils se substituent. Le notaire n'est pas un auxiliaire de justice, au même titre qu'un avocat. Donc, il ne faut surtout pas qu'il aille contester ensuite la convention de consentement mutuel telle qu'elle a été rédigée et approuvée.
Donc, il ne faut pas qu'il s'en mêle. Lui, il vérifie que...
Il ira voir. D'ailleurs, si la personne veut, pour ce qui est des biens, aller voir un autre notaire ou travailler avec ce même notaire, c'est ensuite de cela. Ce n'est pas dans la procédure de divorce qu'ils vont régler le problème des biens. L'avocat s'en préoccupe avant, se préoccupe de ces questions, et lui n'est là que pour enregistrer l'acte, pour que cet acte-là, s'il n'était pas respecté par l'une des deux parties, puisse avoir une force exécutoire. C'est parce que seul l'officier public ministériel, quel notaire, est en capacité de donner à cet acte qui est préparé, porté par les avocats, puisse lui donner une force exécutoire et faire en sorte que la partie qui se verrait finalement non attribuer les deux dispositifs consentis puisse engager des poursuites.
Merci. Merci, Madame la députée, pour ces précisions qui rappellent dans ce divorce express les responsabilités et les fonctions de chacun. Merci aussi à tous nos intervenants. Maintenant, des solutions. Hein,
parce que il en faut. Même avec cette réforme, les tribunaux sont quand même extrêmement engorgés. On essaie de trouver des solutions. Vaste ambition, vaste défi, trouver des solutions pour que la justice fonctionne mieux. En tout cas, que pour les justiciables, ça soit... plus rapide
et plus juste. À tout de suite sur RMC.
Je demande à être jugé sur deux engagements majeurs. La justice et la jeunesse.
RMC jusqu'à 16h, 100% Bachelot.
Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et les femmes pour leur donner des ordres, pour leur expliquer chaque détail, pour leur dire où se trouve chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des femmes et des hommes le désir de la mer.
Intervenez en direct sur RMC dans 100% Bachelot au 32-16 avec Roselyne Bachelot.
Et oui, nos députés viennent de voter une loi sur la justice du 21e siècle destinée à désengorger les tribunaux, à améliorer le fonctionnement de la justice. Mais j'ai le sentiment, Rémi, que cette loi, elle est pas vraiment faite pour protéger le justiciable. Il y a des choses qui sont bien.
Mais il y en a d'autres qui te chiffonnent.
Il y a des choses qui me chiffonnent. La suppression des tribunaux pour mineurs, la suppression de la collégialité de l'instruction. On avait bien vu à quel point dans l'affaire Doutreau, qu'un juge soit tout seul à tenir la vie et la mort des gens dans ses mains, c'était difficile et dangereux. On a parlé du divorce par consentement mutuel, qu'on appelle le divorce express, avec ses points positifs et ses points négatifs. Maintenant, il faut mieux faire fonctionner notre justice, et pour trouver des solutions, je suis très heureuse de recevoir Pierre-Olivier Sûr, ancien bâtonnier, avocat. Pierre-Olivier Sûr, d'abord un mot peut-être sur le sujet qui nous a préoccupé pendant le premier quart d'heure de notre show, et on viendra plus généralement sur la loi, le divorce par consentement mutuel, le divorce express.
Écoutez, le divorce, quelle que soit la situation de fortune, des enfants, la situation, le divorce c'est toujours un faible contre un fort. Et qui dit faible contre un fort, dit la nécessité de rééquilibrer les choses par la voie d'avocat et par la voie d'un arbitre qui est un magistrat. Et le magistrat est là, alors on va me dire, oui, mais il ne reçoit que 8 minutes ou 12 minutes, etc. Mais le magistrat, en un instant, comprend le déséquilibre et son job, c'est de compenser ce déséquilibre. Et un divorce sans juge n'est pas un divorce qui doit s'inscrire dans notre République avec un système judiciaire et un juge qui est là pour trancher les litiges. Je dirais même que le premier des litiges entre les hommes, les femmes, les gens, c'est le divorce. Et si ce premier des litiges échappe au juge, alors que deviendra notre justice ? C'est quelque chose qui me paraît incontestable.
Alors, d'autant que la vice-présidente de la commission des lois, Cécile Untermeyer, nous a dit, mais le notaire n'est là que comme un greffier, comme un enregistreur de la convention passée entre les parties. Effectivement, vous appelez notre attention sur un point, c'est que quand il y a conflit, parce que quoi qu'on dise sur le consentement mutuel, et vous le rappelez, je défends cette thèse, il y a toujours finalement conflit, plus ou moins bien géré, il faut un arbitre, et il n'y a plus d'arbitrage, puisque d'ailleurs la députée a renvoyé le notaire à son rôle de greffier. Maintenant, à travers ça, on voit quand même que le divorce, c'est en moyenne 7 mois de procédure et que nos tribunaux sont complètement engorgés. Donc, sur tout ça, il faut des solutions, être sûr.
Alors, effectivement, cette disposition montre la carence totale, la faillite absolue du système. Comme on n'a plus de juge, comme on n'a plus d'argent, on va confier ça au notaire. Et une sorte de déni de justice. De déni de justice. Vous savez, les juges, on en a aujourd'hui, je crois, 8200 en France.
Oui.
Il y a 30 ans, il y en avait 8000.
Il y a et 30 les procédures ans, ont explosé.
Il y a 30 ans, il y avait 5000 avocats au barreau de Paris. Aujourd'hui, nous sommes 30 000.
Waouh.
Vous voyez cet effet complètement disproportionné entre une énorme croissance du barreau et un maintien de la population des juges. Et il en ressort ce qui arrive, devait arriver, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de juges pour le nombre d'avocats et pour le nombre d'affaires à traiter. La population a augmenté, les divorces évidemment ont augmenté. Alors plutôt que de mettre de l'argent et d'ajouter des juges au peu de juges qu'il y a aujourd'hui, eh bien on va transférer ce contentieux qui est un contentieux massif et majeur vers un autre corps juridique qui est celui des notaires. Les notaires, j'ai beaucoup de respect évidemment pour les notaires. Les notaires sont nos cousins à nous, avocats. Mais les notaires sont toujours du côté de l'argent, toujours du côté du patrimoine. Et suivre le dossier. Il y a quelques instants, on a eu un appel au 32-16 d'un notaire qui dit c'est pas mon boulot. Moi, je règle les problèmes financiers, mais c'est tout, point.
Je n'étais pas sur votre plateau, mais c'est tellement évident aux yeux de tous les notaires et de tous les avocats. Le juge est là pour trancher le litige. C'est le partage de midi. Et c'est au moment du divorce, au juge, de rééquilibrer le déséquilibre de la vie qui fait qu'à un instant, il y en a un qui est fort et un qui est faible, quelles que soient les questions d'argent, quelles que soient les questions d'enfant.
Alors, maître, puisqu'on parle de questions d'argent, on avait tout à l'heure Cécile Untermeyer, donc députée, vice-présidente de la commission des lois, et on appelait son attention sur le fait que voilà, il y avait une vision uniquement patrimoniale, mais les intérêts moraux des conjoints, les intérêts des enfants n'étaient pas pris en compte. Et elle nous disait, il va être défendu parce que chacun est obligé maintenant d'avoir un avocat. Alors, ça coûte combien? Parce que finalement, on se dit, mais cette histoire-là, ça va nous coûter deux fois plus cher de divorcer.
Alors, il faut tout reprendre à zéro, n'est-ce pas? Et vous avez raison, c'est une question d'argent. Je disais il y a un instant, on n'a plus d'argent pour embaucher d'autres juges, on est toujours à 8000 et quelques juges, comme il y a 30 ans, et on n'a plus d'argent pour payer les avocats. Alors, démission. On va faire 100 juges et on va faire 100 avocats. Et moi, je dis, c'est un déni de justice. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut trouver de l'argent. Et vous allez me dire, mais où trouver de l'argent? Mais moi, je vais vous répondre, c'est pas tant d'argent que ça. Le budget de la justice aujourd'hui, c'est 8 milliards d'euros, soit 2% du budget de l'État. 8 milliards d'euros.
C'est faible par rapport aux autres pays.
C'est deux fois moins. Deux fois moins. Chaque Français consacre, et Française consacre 120 euros à la justice, au budget de la justice chaque année. Il faudrait évidemment doubler. Mais même si, sans aller jusque-là déjà, en Angleterre c'est le double, si on passait de 8 milliards à 10 milliards et demi, ce que je propose, c'est-à-dire rajouter 2 milliards et demi, est-ce que c'est beaucoup 2 milliards et demi? C'est pas tant d'argent que ça pour la nation. 2 milliards et demi, c'est 10% simplement de ce que rapportera la vente d'armes à l'étranger. La vente d'armes à l'étranger va rapporter cette année dans notre budget de l'État environ 25 milliards. Moi je dis, rajoutons 2 milliards et demi au budget de la justice. Et avec ces 2 milliards et demi, je fais quoi? Je commence par embaucher des juges, des greffiers, du personnel administratif. Je donne plus de moyens à la justice. Tout à l'heure, ce matin, j'étais au palais de justice dans une vidéoconférence avec le tribunal de QC. J'ai dans l'écran la juge d'instruction de QC. Tout d'un coup, la vidéo décroche. Pendant trois quarts d'heure, on a été coupé. Puis ensuite, il a fallu envoyer le PV par fax à l'ancienne.
C'est la grande misère.
Par fax. Il n'y avait plus de papier. Nous sommes au tribunal de grande instance de Paris. Nous avons mis 4 heures pour 20 minutes d'interrogatoire.
Bon,
c'est ce qu'on appelle un constat. Hein.
C'est un constat, exactement.
Et Robert nous appelle au 3216. Robert, il nous appelle du département de l'Hérault. J'espère que vous n'avez pas été trop mouillé.
Oui, alors là, l'Hérault, vous êtes plus en vigilance là maintenant, ça va, vous êtes sorti. D'abord, Robert, bonjour, merci.
Bonjour,
merci d'être avec nous. Vous-même avez été dans des procédures, vous avez été un usager de la justice.
C'est ça. J'ai passé malheureusement 2 divorces qui a duré extrêmement longtemps.
C'est-à-dire ?
Ça a duré plus de 3 ans à chaque fois.
Oh là !
Voilà, pour la seule raison que la justice reportait à chaque fois les audiences parce que madame n'avait pas répondu ou elle n'avait pas envoyé de documents à temps ou parce que... Il y avait des grèves de justice, ou enfin plein d'autres raisons. Mais ça a été reporté X fois.
À 38 ans, vous avez passé 20% de votre vie en procédure de divorce.
C'est pas, je veux dire ça, mais ça fait 6 ans, ouais, 6 ans, ouais, où j'ai passé le divorce, ouais, de 2004, pratiquement jusqu'à 2008, pour la première fois, et de 2008, on va dire, jusqu'à 2012, 2013. début 2013.
Alors Robert, c'est quoi votre solution pour améliorer le fonctionnement de la justice?
Moi, ma solution, je pense que déjà, il faut simplement séparer la procédure de divorce en deux parties. La première, divorcer les parents parce qu'ils sont d'accord pour divorcer entre eux, tout simplement par un papier ou par dire voilà, ou un questionnaire ou une conciliation, simplement les divorcer très rapidement. Première chance, c'est celle-là. Pourquoi ? Parce que ça évite de créer de l'animosité entre les parents, pour ensuite la gestion soit du patrimoine, mais le plus important, la gestion des enfants. Parce que après, ça devient une petite guerre entre les parents pour savoir qui va faire quoi avec les enfants, comment on va les garder, qui va payer la pension alimentaire, et ainsi de suite. Pour régler ce problème-là, je pense qu'il faut divorcer les parents le plus rapidement possible pour éviter ce genre de...
Ça me paraît pas apporter une solution quand même très très opérationnelle. Robert, vous restez avec nous. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Olivier Sûr?
2,5 milliards de plus pour le budget de la justice et je vous fais une justice qui fonctionne. J'embauche 3 000 magistrats, des greffiers, du personnel administratif, et évidemment que les dossiers seront éclusés.
Ouais. Aujourd'hui, vous avez un... Robert, il restera pas 3 ans.
Non, ce monsieur Robert doit rester 6 mois. Un point, c'est tout. Mmh. Et si nous avons plus de moyens, eh bien évidemment, il va y avoir on va fluidifier tout cela. Ça ira plus vite.
Donc une question de moyens. Nous avons Rémi.
Merci Robert.
Vous intervenez sur l'antenne, Rémi?
Non, c'est un autre Rémi. Et Rémi nous appelle de Bordeaux.
Bonjour Bordeaux et bonjour Rémi. 37
bonjour.
Ans, charpentier. Alors, dans votre boulot, là, vous construisez des choses solides, les mariages aussi solides.
Pas toujours.
Alors allez-y.
Donc moi, ma solution, en fait, c'est que pour les divorces à l'amiable, quand les deux parties sont bien d'accord sur tous les termes du divorce, je vois pas l'intérêt de passer devant un juge. Je vous explique tout de suite mon cas précis. Mmh. Quand j'ai divorcé, c'était un divorce à l'amiable. Nous sommes allés voir avec mon ex-femme un avocat. On n'a besoin que d'un seul avocat. Et la procédure a duré 8 mois. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu attendre un juge. Nous avons attendu. Et lorsque nous sommes passés devant un juge qui nous a absolument pas du tout regardé ou quoi que ce soit, elle nous a reçu chacun notre tour et elle a fait rerédiger toute la convention de divorce à l'avocate parce que ça ne lui plaisait pas. Alors qu'on était d'accord sur tout. Donc nous, on serait allé voir un notaire. Ça aurait été très bien. Hein, c'était aussi bien. Hein, c'était même mieux.
Bon, merci Rémi. Il y a certaines fois où c'est peut-être une procédure qui pourrait être...
Le juge n'est pas toujours infaillible.
Non, mais le juge n'est pas toujours infaillible, l'avocat non plus, mais le juge contrôle quand même, le juge a des réflexes, et le juge évite la manipulation de l'un sur l'autre, qui même quand il n'y a pas d'enfant, même quand il n'y a pas d'argent, peut intervenir dans le cadre de cette séparation, de cette fracture de la vie, qui dit fracture de la vie, dit un peu effondrement de l'un ou l'autre, ou des deux, et à ce moment-là, c'est le juge qui doit rééquilibrer les choses, fermer les cicatrices et permettre qu'on regarde devant. Mais pour regarder devant, il est certain qu'il faut que la procédure aille vite.
Merci Pierre-Olivier Sûr.
En tout cas, on a bien compris votre solution. Donner des moyens financiers
et
à la
ça,
justice.
Évidemment.
Aujourd'hui, nous sommes à 8 milliards. Il faut arriver à 10 milliards et demi.
On a bien compris.
Merci beaucoup, merci. Maître Pierre-Olivier Sûr, ancien bâtonnier de Paris. Tout de suite, Roselyne, le top news. On va justement et notamment reparler de justice. François Hollande qui regrette ses paroles sur les magistrats.
Ses paroles. Bérésina médiatique.
Bon voilà, ça c'est fait. La primaire, le débat de la primaire à droite, ben, c'est un peu...
Est-ce qu'on s'est emmerdé ?
Bon voilà, c'est un peu Bérésina aussi. Et puis Bob Dylan, prix Nobel de littérature.
Ah ben, j'attends Maître Gims en prix Nobel.
Merci beaucoup Roselyne, d'accord, pas d'accord. Vous nous appelez au 3216.
RMC, Top News, 100% Bachelot. Roselyne Bachelot.
Eh oui, 3 sujets dans notre Top News. Le débat des primaires, Bob Dylan avec le prix Nobel et les regrets de Hollande. Et tout de suite, Rémi, on a Sylvain.
Exactement. Il nous appelle au 32-16. Sylvain, il nous appelle depuis la Charente-Maritime.
Alors Sylvain, vous avez regardé le débat, vous?
Bonjour Roselyne, bonjour à tous. Oui, j'ai regardé le débat et je me suis pas ennuyé du tout.
Oh bah,
contrairement
formidable
à vous.
Moi, vous étiez sur la même chaîne.
Vous étiez pas sur RMC Découverte à regarder le viaduc de Millau. Bon, d'accord.
Non, pas du tout. Je suis un électeur de droite. J'étais prêt à voter Juppé sans aucun doute. Mais hier soir, j'ai un homme qui m'a fait totalement changer d'avis sur son projet, sur ce qu'il veut faire pour la France, pour la République. Eh bien, c'est François Fillon.
Ah, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a fait vraiment plu puisque vous avez changé d'avis?
François Fillon, je l'ai pas trouvé nerveux. J'ai senti de la sobriété, de la sérénité, une vraie stature de futur président de la République, contrairement aux six autres, excusez-moi du terme, mais des six autres pantins qui étaient là.
Le mot est dur. Ils avaient quand même une certaine.
Ah oui,
tenue.
Mais Monsieur Sarkozy, j'ai vu Monsieur Sarkozy qui était un petit peu nerveux, qui sentit que ça bouillonnait à l'intérieur. il avait du mal à dire les choses, Monsieur Fillon. Et il y avait une sérénité d'un calme.
Ça a été noté par les journalistes. Dites-moi, mais vous n'avez pas regretté quand même ces interventions très courtes, une minute, c'était quand même... On avait envie que justement, même si vous avez trouvé François Fillon, vous aviez peut-être très bien, vous n'aviez pas envie qu'il puisse un peu poursuivre, qu'il se débatte un peu entre eux.
J'avais envie que ça dure plus longtemps, justement, parce que je sentais que M. Fillon avait encore beaucoup d'arguments, beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, le temps était là, mais je désespère pas qu'au prochain débat il se donne vraiment, mais j'ai l'espoir avec lui.
Moi je critique pas le contenu, puis d'abord je n'ai pas apporté moi ici de jugement sur ce qu'ont dit les uns et les autres, même si évidemment j'ai mon opinion, mais je la dirai pas ici.
T'as le droit.
C'est quand même un sujet très politique, mais je porte un jugement sur la façon dont a été organisé le débat, et je trouve quand même que c'était très ennuyeux, cette organisation. Avec tous les types, ils parlent une minute, ils s'arrêtent, ils peuvent répliquer pendant 30 secondes. Faut que ça change quand même.
Oui, droit dans leur petite chaussure à dire ce qu'il faut dire, peut-être à pas dire devant les médias. Ah, on a senti comme un monsieur Juppé, comme un monsieur Le Maire. Bruno, c'est le renouveau. Ben, moi, Bruno. Bruno mou, Bruno a peur, Bruno non, j'ai pas vu.
Bon, Bruno, non. On voit que vous avez choisi votre candidat maintenant pour la première. Il y a encore deux autres débats, ça pourra changer puisque vous avez changé pour un premier. Vous aurez peut-être une heureuse surprise sur le deuxième débat. En tout cas,
puis le deuxième sera génial parce que ça sera sur BFM TV et sur RMC.
Sylvain, merci de nous avoir rejoints pour ces top news, et nous avons
Jocelyne, elle est professeure des écoles, et elle nous appelle du beau département de l'Isère.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Roselyne.
Qu'est-ce qui vous fait réagir, Jocelyne?
Alors moi, ce qui me faisait réagir, c'était vos propos par rapport à Hollande et par rapport à ce qui a été ce qui est sorti dans la presse là.
Livre.
Ouais, il a parlé. On a rapporté des propos dans un livre où il aurait dit que les juges, ils étaient lâches des magistrats.
Voilà. Alors, ce que je disais, moi, c'est que, bon, par rapport à ce livre que je n'ai pas dans les mains, bien évidemment, je connaissais pas le contexte dans lequel il a dit ça. Et c'est vrai que par moment, quand on est en train de parler, on dit les gens en général, et c'est pas nécessairement toute une profession dont on veut parler. Donc il y a déjà ça. Et puis je disais qu'en tant que professeur des écoles, à la personne du standard, moi j'explique à mes élèves que quand on est en train d'étudier quelque chose, on essaye de savoir quel est le contexte. Et là, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les juges sont en train de donner un avis sur quelque chose qui est paru dans un livre, et ils n'ont pas l'air d'essayer de se renseigner sur le contexte. Donc je me dis que quelque chose que je demande à mes élèves de primaire, donc de moins de 12 ans, si un juge n'est pas capable d'arriver à le faire avec toute la charge de travail qu'il a, je suis un peu inquiète, voyez-vous.
Non mais vous avez raison Jocelyne, il faut contextualiser parce que cette déclaration de François Hollande, elle a été faite dans le contexte de l'affaire Taubira et d'un conflit entre les juges et Madame Taubira. C'est vrai qu'il y a à contextualiser, mais le contexte c'est quand même que le président de la République a reçu plus de 60 fois des journalistes auxquels il a confié une mission de mémorialiste, de raconter l'histoire de son quinquennat, et qu'il l'a fait sans aucune précaution. C'est ça aussi le contexte.
excusez-moi, mon souci, moi, enfin d'après ce que j'ai cru comprendre, les journalistes n'ont pas redonné à lire le livre avant la parution.
C'est vrai.
Et ce qui, moi, alors là, m'inquiète quand même beaucoup.
Moi aussi.
Apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, il en a fait la demande et les journalistes ont refusé.
Eh oui, mais ça n'avait pas été conclu avec eux au départ et là, sans doute, il y a une imprudence. En tout cas, merci, merci Jocelyne d'être intervenue dans notre show. Rémi.
Vincent Moscato, ça te dit quelque chose?
Oh bah tu parles, moi je suis sûr qu'il va me parler de Nice, le Vincent.
Mais bien entendu, Roselyne. Est-ce que c'est le prochain? Roselyne, est-ce que c'est le prochain Grand Prix?
Ah écoute, ils sont bien partis quand même, c'est là.
Oui, avec ce Balotelli quand même, qui arrivait quand même avec la forme physique du pêcheur du coin, mais il marque des buts.
Et tu nous fais pas un peu de rugby quand même, Amy Rugby?
Mais bien entendu, c'est la Coupe d'Europe.
Bah oui, c'est la Coupe d'Europe.
Alors est-ce que l'expérience en Coupe d'Europe compte? On parle plus.
On va le savoir avec toi.
Aussi les Saracens. Et oui, les Saracens, parce que les Saracens, ils sont tenants du titre. Et c'est ça le premier duel au sommet Toulon-Saracens. Bah, écoutez, on va en parler dans le Super Moscato.
Écoute, Vincent, le rugby, c'est comme l'amour, un peu d'expérience ne nuit pas.
Ça, c'est une belle conclusion. Merci, Vincent. À tout de suite. Et nous, Roselyne, on se retrouve lundi dès 15h, 100% Bachelot.
Bon week-end à tous. Bon week-end, mon Rémi.
Bon week-end.
RMC, 100% Bachelot.